Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous. Son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir de l'assurance au jour du jugement. Comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Parole du Seigneur.
Donc, grâce à Dieu.
Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront.
Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront.
Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux.
Tous les rois de la terre le serviront.
Tous les pays le serviront. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui.
Tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre. Du pauvre dont il sauve la vie. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront.
Alléluia, 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 alléluia.
Manifesté dans la chair. Alléluia. Louange à toi, toi qui es proclamé parmi les nations. Louange à toi, Jésus-Christ, reconnu dans le monde. Alléluia. Louange à toi, Jésus-Christ. Louange à toi. Alléluia. 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 Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renverrait les foules. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus, lui, tout seul à terre. Voyant qu'ils peinaient à ramer parce que le vent leur était contraire, Jésus vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer. Et ils voulaient les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme. Et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient terrorisés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux Il leur dit confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et voici qu'en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Ton évangile, Seigneur, se répand sur la terre dans une rosée vivifiante. Qu'elle pénètre toute chair assoiffée de grâce en bénédiction. Qu'ils puissent voir s'ouvrir devant leurs yeux dès cette terre. La porte de la Jérusalem d'en haut, lavée de toutes leurs fautes dans du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi, alléluia. Louange à toi, alléluia.
Arrêtez de courir.
Leur cœur était endurci. Et donc, l'appel de l'épiphanie, c'était comprendre de l'intérieur ce qui se passe dans la transsubstantiation et dans la transactuation eucharistique. La transsubstantiation se passe à la messe. La transactuation, elle se fait dans l'indivisibilité de Dieu, après la communion. Sens réel. Dès que Jésus monte sur la barque, l'évangile indique qu'aussitôt ils arrivent, alors qu'ils n'avaient même pas fait un tiers du trajet. Pourquoi ? Pour montrer que l'Eucharistie, le pain, c'est la présence réelle, et cette présence est très puissante, elle est féconde, elle est immédiatement efficace, elle nous fait arriver immédiatement à la fin. Elle nous fait bondir à travers le temps, elle nous fait atteindre la fin. Matériellement, parce que la terre solide de la résurrection, l'autre bord, nous est donnée de manière dans notre corps spirituel, tachyoniquement. On peut le dire aujourd'hui, tachyoniquement. Bon, bien sûr, si tu. En putain, je comprends très bien que bon, mon Dieu va me donner la permission à ce bombardement nanométrique de particules infiniment petites, qui sont récepteurs de. Comme être récepteur de manipulation collective ou individuelle. Des trucs qu'on ne peut voir qu'au microscope, qu'on ne peut pas repérer quand on boit un verre d'eau. D'accord. Mais dans l'Eucharistie, le bombardement tachyonique, qu'est-ce que tu en fais? Dès que tu reçois l'Eucharistie, le sang de Jésus, alors à ce moment-là, dans le sang de Jésus, tu prends autorité tachyoniquement sur tous les éléments de matière, tu les détruis, les anéantis, tu les fais parvenir à leur avantage. À leur anéantissement dans l'aquilon, dans la fin, tu touches bien. C'est une présence réelle, immédiatement efficace, ça y est arrivé. Bon, ça c'est voilà, ça c'est le commentaire classique. Le commentaire classique, voilà, que vous avez déjà entendu souvent quand c'est pas bon. C'est un multiplié pain, 105 000. C'est pour le Père et c'est pour Marie qui se donne une nourriture, 5 000, c'est tout, voilà. Très bien. Et il est, c'est une présence réelle, il est réellement présent. Et dès qu'on comprend qu'il est réellement présent, on est arrivé. Le temps est vaincu, la matière aussi, l'univers. Euh, Ah, bien sûr, déjà, qu'il soit né dans une mangeoire, qui dit il faut se nourrir de moi. Et il faut être assoiffé, moi, boire à la coupe l'amour délicieux des délices éternels dont je suis le principe, la source et l'hypostase. C'est ça, l'Eucharistie. Et je suis tout puissant, quoi. Dès que j'émane dans la chair et j'en surabonde, nous avons toute autorité, puis c'est tout. Donc il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. Faut avoir confiance, c'est tout. Bon, voilà, ça c'est un bon classique. Ça. C'est vrai, c'est classique ça. C'est facile. Mais leur cœur était endurci. Ils n'avaient rien compris. Ouais, c'est. Il y a quand même quelque chose d'apocalyptique dans cet évangile de Jésus qui marche sur les eaux. Tout le monde a peur et finalement il rentre dans la barque et on n'est pas arrivé même à la moitié du chemin. Ça signifie quand même quelque chose, c'est qu'au bout d'un certain parcours de l'Église, bon, on n'est pas à la moitié du chemin encore, il va y avoir une espèce de parousie. Bon, les gens vont être terrorisés, peut-être, bouleversés, je sais pas, fatigués en tout cas, ça. Et puis, ils n'ont rien compris, quoi. Hein? Non, pas vous, bien entendu. Vous avez tout compris, mais les autres.
Les incapables de comprendre.
Mais vraiment rien, quoi. Alors là, on peut faire la théologie. On dit, voilà... Quand même, l'Église, quelque part, dans ses profondeurs, elle a compris. C'est les hommes qui ne comprennent pas. Mais l'Église, elle comprend ce que c'est que l'Eucharistie. Elle dit bien, l'Église, elle le dit. Bien sûr que c'est une transsubstantiation. Tout de même... C'est une présence, donc l'Eucharistie, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'intérieur de l'éternité. L'Eucharistie vient d'en haut. Et elle nourrit la paternité de Dieu. C'est une action de grâce. C'est un remerciement. Puisque Dieu a pu émaner de la chair, alors il donne à la chair cette source d'émanation de Dieu. Et ça nourrit Dieu, puisque Dieu se nourrit de cette source d'émanation en lui-même déjà, voilà. Et comme cette source d'émanation, c'est la chair, voilà, c'est une action de grâce. C'est pour ça que l'Eucharistie a été instituée pour Marie, hein, et pour le Père. Alors on va comprendre quand même quelque chose de l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie, c'est finalement, c'est une question de cœur, c'est une question d'amour, et si on est arrivé à la fin, si on est à l'intérieur de notre Sainte Trinité, dans l'intime, on est forcément humble, hein. On est forcément une très grande puissance intérieure. C'est la puissance divine elle-même. Et on est très très pur, on est substantiellement immaculé, on peut traverser toutes les épreuves avec une patience sublime. Dans une impassibilité d'amour parfaite. Bref, on est dans une obéissance, quoi. On fait la volonté du Père, on est dans le fiat éternel du Soleil et de la Très Sainte Trinité. On se nourrit, on n'a plus peur, puisqu'on a toutes ces... Évidemment, donc on a peur si on est en dehors du cœur du Jésus, du cœur du Père, du cœur de... Donc la nourriture, ça va nourrir le cœur divin. Vous voyez, vous connaissez l'histoire que nous avons un cœur humain, nous avons un cœur psychique d'abord, nous avons un cœur humain, nous avons un cœur spirituel, originel, primordial, nous avons un cœur surnaturel, nous avons un cœur divin. Et c'est ce cœur divin qui se nourrit. Mais pour celui qui est dans le cœur ne pas endurci, c'est-à-dire il a les sept vertus de Jésus, celle qu'on invoque pour la parousie, quoi, avec les anges, c'est cette vertu-là. Il n'y a plus de... on n'a pas peur d'un quelconque redressement, purification pénible, non. Tout est pur en Marie, tout est pur dans le mariage de Marie et Joseph, tout est pur dans la sponsalité avec l'Esprit Saint. Voilà. On est inscrit dans l'interface de la nature humaine qui s'est manifestée dans le temps. Et cette nature humaine nous appartient, donc elle nous... L'Eucharistie s'adresse au divin. S'adresse à tout ce qui est purement divin en nous. Elle vient nourrir notre virginité, elle vient nourrir l'humilité éternelle de Dieu, cet effacement d'obéissance, cet effacement sponsal, cette virginité, cette transparence, cette patience, c'est extraordinaire, c'est vrai, que l'effacement éternel de Dieu s'inscrit dans un effacement qui va durer des millénaires, des millions de fois chaque jour. Et on est emporté immédiatement dans la présence réelle de cette présence, d'un effacement, d'une humilité, d'une virginité éternelle, toute brûlée d'amour, de ferveur. Et donc c'est une nourriture pour le divin. Je suis pain de la vie. Alors on n'a rien compris, bien sûr. Alors on peut après faire un petit, toute une théologie, justement, pour bien comprendre ce que ça veut dire, ce passage de la transsubstantiation à la transactuation. Aussi, vous préférez, bon, donc, de la communion à la surabondance qui nous emporte, où on est assumé dans le fruit de tous les sacres, dans le fruit, dans l'ivresse, dans l'extase intérieure et éternelle de Dieu. Donc c'est ce que fait saint Thomas, on fait une théologie de tout ça. Mais notre cœur est endurci, alors ils n'avaient vraiment, c'est pas qu'ils avaient mal compris ou un peu, ou pas assez, non, ils n'avaient rien compris sur l'Eucharistie. C'est extraordinaire, cette espèce de prophétie sur l'Église de la parousie. L'Église de la parousie est touchante. Avec sa pastorale, c'est elle est ridiculisée par tous ceux qui sont incroyants, ils tiennent écrasés par les impies. Enfin, c'est quand même touchant, et ça tire quand même des larmes de compassion quand on voit les chrétiens dans le monde. C'est vrai, ils sont touchants pourtant. Et... Mais c'est vrai qu'ils n'ont rien compris. C'est vrai quelque part, et rien. Pourquoi ils n'ont rien compris? Mais parce que ils ont vu Jésus, mais ils n'avaient pas vu, ils n'ont pas vu l'Immaculée, ils n'ont pas vu le Père, ils n'ont pas vu. Bon, saint Thomas d'Aquin va t'expliquer quand même. Oui, la transsubstantiation, c'est quand tu vis l'Eucharistie, un zikara né dans la mémoire de l'union hypostatique de Jésus. Donc il faut se engloutir dans l'instant où Marie s'engloutit en lui au premier instant de sa conception, 9 mois avant Noël. Mais Jésus vit quoi à ce moment-là? Puisque dans la sphère de sa connaissance glorieuse et bénie, complète et totale, dans le soleil de sa pleine connaissance et il n'a même pas forme humaine. Puisque c'est un génome. La mémoire de eucharistique est quand même, c'est dans cette mémoire, faites ceci, hors mémoire de moi, que se transsubstancie le mystère de l'Eucharistie. Bon, ça, la théologie est facile à expliquer, ça, bien sûr, évidemment, très compliqué si je dis que la mémoire n'existe plus. Si la memoria dei n'existe pas, et c'est le cas dans l'Église catholique, on se trouve dans une génération qui enseigne, qui explique, qui est particulièrement certaine, dans une certitude totale, que la memoria dei n'existe pas. C'était un truc à... C'est assez vertigineux, quoi, de comprendre qu'on est... C'est assez vertigineux, quoi. Bon, ça, c'est de la théologie. Mais c'est de la mystique, si vous voulez, c'est de l'amour, c'est une affaire de cœur, de savoir qu'on ne connaît pas Marie, qu'on ne connaît pas l'Immaculée Conception, qu'on ne connaît pas l'union hypostatique désirée de Jésus dans sa mémoire. C'est-à-dire, dans l'instant de son incarnation, il assume quoi dans l'instant d'incarnation? Mais c'est le cœur totalement divin de l'humanité intégrale, de la nature humaine, dans sa sagesse entièrement transformée, illuminée, sanctifiée, divinisée. De la matière tachyonique, de la transactuation sur notre responsable de Marie et Joseph. Dans l'instant de la memoria dei du Christ, dans l'instant d'avant, l'instant éternel du moment, l'instant immortel de toute l'Eucharistie qui en est engendrée. Cette lumière tachyonique, c'est-à-dire bien des milliers de fois plus pure que la lumière assumée par le Verbe de Dieu, qui dans le principe va créer toute chose. Non. Et il faut avoir du cœur quand même pour connaître Saint Joseph. Saint Joseph, c'est... On croit qu'on est fâché avec Marie. Non, c'est avec Saint Joseph qu'on est fâché. On n'est pas fâché avec la maman, on est fâché avec le papa.
Ouais, c'est pas facile.
Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est, on est fâché, puisqu'on ne veut pas. On n'a pas notre cœur dans le papa. D'ailleurs, il faut bien regarder, c'est un phénomène eschatologique et évident que le Fils offre au Père, que la caractéristique de la pensée, quoi, pas seulement de la pensée, du comportement, enfin de l'acte, du moindre des actes. De l'humanité moderne, c'est l'absence du père. Hein. C'est on n'a pas de cœur pour le papa. Je crois que l'effort principal d'une maman, aujourd'hui, dans une famille, c'est de protéger les enfants contre le papa. C'est 100% des efforts de la mère, c'est ça. C'est ça. On ne peut pas le nier. C'est en fait, c'est quand même diabolique. Non, il me semble que c'est pas normal. C'est Freud qui a fait ça, mais c'est les 7 têtes du dragon. Tu sais, c'est la raison. Il faudrait faire une thèse justement là-dessus. Serait... Voilà, pour montrer que le but, c'est ça, c'est la destruction. On n'a pas de cœur. Vis-à-vis du papa, d'ailleurs on le voit bien quand c'est aussi mes moment. Alors donc, pour comprendre l'Eucharistie, c'est ça que j'aimerais bien, moi, que le Seigneur nous délivre de tout ce qui nous empêche de nous engloutir dans un... Pour pouvoir toucher, quoi, voir, sentir, nous émerveiller, puis nous étourdir d'amour de ce côté-là, quoi, du côté de. Il faut comprendre que c'est Saint-Joseph qui est source de l'Eucharistie. Il y a une espèce de. Saint-Joseph est la matière de la transsubstantiation. Oui. Je crois que c'est pas si difficile que ça à contempler, en fait, hein, puisque Abraham s'est nourri de l'Eucharistie. Mais Nachi d'Israël aussi. Hein. Bien sûr qu'on a apporté, comme on a dit l'autre jour, c'est dur, alors, mais quand même, j'ai vu une lumière, et puis une lumière s'est approchée de moi, et il y avait une hostie, et cette lumière m'a mis l'hostie dans ma bouche, et c'est une hostie qui était douce, palpitante, solide, mais très, très vivante. Bon, l'ange t'a apporté la communion. C'est la quatrième que je vois qui me dit ça, plus personne, bon. C'est beau, c'est un miracle, c'est sympathique, c'est bien. Évidemment que Élie le prophète se nourrissait de l'Eucharistie. Abraham se nourrit de l'Eucharistie. L'Eucharistie future. Et Saint Joseph se nourrissait de l'Eucharistie avant qu'il y ait l'Immaculée Conception. Enfin, bien entendu, enfin, je veux dire. Je crois que je pense que ça. C'était pas des phénomènes miraculeux ou prophétiques chez lui, c'était direct. Puisque les sources sont toujours conjointes. Hein. Donc il se nourrissait de l'Eucharistie, il savait bien. C'est dans toute l'écriture, c'est dans toute la Torah que c'est la nourriture de Dieu qui se donne en offrande dans le Saint des Saints. Il ne faut pas croire que Saint Joseph ignorait ce que c'était que le Saint des Saints. Tout de suite dans le Saint des Saints, pour lui, c'est la terre qui doit donner son fruit dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints doit donner. Et la terre, c'est la matière vivante de l'humanité, de la nature humaine absolue. Alors il se nourrit, et c'est toujours dans le Saint des Saints, et dans sa propre mémoire, et sa propre mémoire elle-même, entièrement irradiée, d'une manière quasi gémellaire, en fait, c'est pour ça, en fait, avec l'Immaculée Conception future. Et il ne cesse de s'engloutir dans des cellules eucharistiques sponsales staminales, si je puis dire, qui multiplient sa croissance dans la nature humaine immaculée, sponsale, glorieuse, surnaturelle. Voilà. Mais quand la matière tachyonique, immaculée, de l'Immaculée Conception, se trouve en sa propre mémoire à se conjoindre d'une manière vivante, dans la matière vivante de son mariage assumé, à ce moment-là, il passe à l'au-delà de l'unité des deux. Et là, on se trouve devant ce qui peut nourrir, quoi. Ce qui peut nourrir la nature humaine absolument parfaite, sublime, universelle. Voilà, la fameuse Ave Maria Stella, donc. La félicité de Dieu qui va d'en haut vers le bas et d'en bas vers le haut pour se nourrir de ça. Et c'est bien le mariage du cœur, du sacré cœur, de la nature humaine palpitante et embrasée du Saint-Esprit qui est la matière. Et c'est sûr que c'est normal que cette nourriture soit assumée, qu'elle transforme, qu'elle se transforme, et qu'elle se donne, et qu'elle vive. Et c'est comme ça que la vie intime et parfumée du rassasiement extasié de Dieu s'unit dans l'indivisibilité à ça, à cette matière
Et aussitôt, il y a la mémoria. Christi, faites ceci en mémoire de moi. N'oubliez pas, avec votre cœur, comprenez que c'est une question d'amour. L'amour qu'il y a dans le cœur de Joseph, il a autorité. Alors quand je reçois, si t'as pas compris, alors ils n'ont rien compris au mystère du pain. C'est fou, quoi. Pour ça, ils sont 5000. C'est pas... Je pense qu'un enfant, un bébé comprend, quoi. Ils sont 5000. Voilà, c'est tout. Alors, bon, c'est une chose de le dire, hein. Ça, on commence à rentrer à ce moment-là dans le drash, là, vous voyez, on a fait la troisième partie, c'est le drash, maintenant, il faut passer au sod. C'est ça, un sermon, ça. Un vrai sermon, première partie, le truc classique, le truc matériel, etc. Deuxième, le surnaturel théologal, théologique, ça. Le troisième qu'on vient de faire, maintenant, c'est le drash, voilà. C'est vraiment une question du cœur au sommet, et puis après, on passe au sod. C'est-à-dire, c'est ça le paradis. Parthès, le pshat, paix. Le ramesse. Côté transcendantal, surnaturel. Le drash, voilà, ça c'est le cœur, c'est qui brûle tout. Et le sod, c'est le secret, à l'intérieur de Dieu. Et Parthès, ça veut dire le paradis. C'est de dire, vous savez, si vous êtes dans les invitations, si vous rentrez dans les grandes invitations de Dieu, que vous les engloutissez en elles, que vous y disparaissez, lui, sa toute puissance divine, va pouvoir opérer. Et vous allez voir, vous allez toucher, vous allez entendre ce que c'est que le pain. Ce que c'est que l'Eucharistie. Dans les hypostases incréées de Dieu, avant la création du monde, et après, encore que ce soit très difficile de dire après, puisque Dieu est indivisible dans l'au-delà, enfin c'est pas dans l'au-delà en plus, de l'indivisibilité intime et intérieure personnelle. Et Saint Joseph, il a été très marqué par le sod de l'Eucharistie. Ça a été son tourment, quoi. Ce qui est sûr, vous voyez, c'est qu'on se trouve dans un... dans la première année où... de l'histoire de l'Église, et puis même de la foi, où Saint Joseph doit être invoqué explicitement à chaque canon de la messe. C'est une décision du Saint-Père. Rien que ça. Rien que ça, ça suffit. Il peut faire toutes les bêtises que tu veux, hein, jusqu'à la fin du monde. Il a fait ça, c'est fini. Voilà. Il peut donner sa démission maintenant, lui.
C'est pas trop. Et,
hein? Il a bien inspiré. Ça. Ça suffit, ça, c'est la signature. C'est trop. trois mages ne voient pas Saint-Joseph, ne le voient plus. Ça, c'est une épiphanie eucharistique. Dès qu'on voit que Saint-Joseph a disparu à nos yeux, dans le sod du principe final de l'eucharistie, c'est ça. Voilà, il est vraiment passé, vous voyez. Il est vraiment passé en se nourrissant comme ça. Il est vraiment passé dans le côté de la nature humaine, universelle, le côté totalement immaculé, divin et assumé. Et forcément, il s'est toujours dépassé dans l'au-delà de l'unité de lui-même, il s'y est effacé. Et heureusement qu'il y a eu ce mariage sponsal avec l'Immaculée Conception, parce que ça permettait cet effacement mutuel et leur disparition dans l'émanation. C'était pas l'émanation du Saint-Esprit, hein. C'était l'émanation eucharistique, hein. C'est l'émanation tachyonique. Et donc, vous voyez bien que si on prend le sang et le corps, la chair, comme nourriture, il y a une très grande puissance. Alors, qu'une permission soit donnée à l'Antichrist de pouvoir infester de manière nanométrique tous les êtres humains, c'est rien à côté de la puissance. C'est normal, si je puis dire. Il n'y a qu'à dire c'est normal. Il faut bien donner une petite compensation. Mais il faut quand même que nous apprenions aussi, avec Saint-Joseph, à rentrer dans la maîtrise parfaite des éléments. Merci Saint-Hildegarde de nous avoir expliqué. C'est pas imaginatif. Je prends autorité sur les éléments au nom de Jésus. Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment une question de transformation surnaturelle, intime. C'est vraiment surnaturel, c'est vraiment totalement divin. Et à un moment, on voit quoi. Vous avez là. Il s'y habitue, si vous voulez, par anticipation. Par appropriation et par puissance, tant que l'Immaculée Conception n'était pas créée. Il s'y habituait parce qu'il savait que c'était de ça qu'il fallait. C'est de ça que la nature humaine et la nature divine ensemble, unis, pouvaient vivre dans l'indivisibilité. C'est pour ça qu'on demande, après la communion, on dit que l'effort tridimensionnel de liberté à créer de Dieu, et évidemment, se saisisse le l'infiniment petit eucharistique que nous venons de recevoir, pour que cette sponsalité paternelle dans l'Immaculée Conception s'en saisisse et la plonge avec toute la matière et tous les temps de l'univers dans l'indivisibilité de Dieu. Alors ça devient infiniment grande la communion reçue. Et Saint-Joseph vit, il sait très très bien que c'est de ça qu'il doit vivre déjà avant qu'il y ait l'Immaculée Conception. Et il n'est pas le principe de l'Immaculée Conception tout seul. Et il faut qu'il y ait le fruit de l'Immaculée Conception dans le fruit de l'Eucharistie, dans le sod. C'est son tourment, c'est sa vocation. Et si on dit ça, c'est pas pour faire le coq, hein. Non. Cocorico, personne n'a jamais dit ça avant nous. Mm. Aux Pays-Bas, ils savent pas. C'est intraduisible en irlandais. C'est pas pour faire le coq, non, non. C'est parce que je crois que c'est très important, parce que pour nous, on sait très bien. Tout va ensemble, d'ailleurs. Vous voyez, la Memoria Dei, Saint des Saints, l'Immaculée Conception, Saint-Joseph, cinquième sceau de l'Apocalypse, le fruit des sacrements, tout ça, c'est tout, le monde nouveau, tout ça, ça va ensemble. C'est curieux, ça va ensemble. Il y a une, c'est pas seulement une logique, c'est il y a un épanouissement. Donc avec Saint Joseph, on comprend que Saint Joseph était un immense contemplatif, c'est sûr. C'est bien plus qu'un contemplatif d'ailleurs, mais il savait que la nature humaine avec lui aboutissait à un terme terminant, vous voyez. Sur le bâton de l'autorité, comme dit saint Hildegarde, triple glisse du gouvernement des éléments du monde et du temps et de l'humanité entière, voilà, est donné à l'homme, Saint Joseph. C'est sur son bâton, sur son autorité, que fleurissent les trois lys. Quand on fait un vitrail, c'est émouvant. Mais le vitrail, c'est pas pour avoir une dévotion. c'est pour savoir comment nous, avec Saint Joseph, dans quelle voie nous allons nous engloutir pour faire ce qu'il a fait et pour le faire avec lui. Voilà ce que Saint Joseph a expliqué à Sainte Thérèse d'Avila quand elle avait 47 ans, hein, qu'elle a fait ses 7 jours de mort, et que Saint Joseph lui a expliqué pendant une semaine. Et puis une fois qu'il l'a expliqué, il l'a ressuscité d'entre les morts, Sainte Thérèse d'Avila. Voilà, elle est intercédée par Saint Joseph. Voilà, maintenant l'oraison, voilà, en fait, comme moi, c'est ça l'oraison. On ne peut pas faire l'oraison à Saint Joseph, sinon il n'y a pas de mariage spirituel. Bon, elle le dit comme ça, mais, bon, mais pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rentrer dans le sod. Ça veut dire qu'il y a notre vie contemplative, quand même. Il faut regarder Saint Joseph, c'est pas compliqué, hein, il est tout seul. Et il sait très bien que dans la nature humaine tout entière, hein, puis Adam jusqu'à la fin du monde, hein, arrive avec lui un terme terminant. Il le sait. Hein. Il le sait. Ça le rend très humble, hein. Il le sait, alors du coup il obéit, c'est ça. Il obéit, je veux dire, il fonce, quoi. Il s'y engloutit, il va en avant. C'est son tourment. C'est son tourment que de vivre, de se nourrir de l'Eucharistie, de se vivre de l'agneau, quoi. L'agneau, le fruit dans l'agneau de la nourriture éternelle de la très sainte Trinité. Fait son tourment. Puisque la nature humaine ne l'a pas encore. Mais il sait que ça coule dans tous les temps, dans tous les lieux. Jusque dans l'instant primordial de la création, de la sagesse accomplie de Dieu. Donc, par la foi, nous avons accès. Il sait très bien. Donc, il disait, je ne peux pas être en dehors de la messe. Et donc, il va se nourrir. Il va se nourrir. Nourrir sa virginité, quoi. C'est la virginité de la nature humaine entière, mais aussi donc de la sponsalité de la Jérusalem glorieuse accomplie. Et il a compris que la dimension sponsale, ce terme terminant de la royauté divine dans la nature humaine qu'il est, ne peut que disparaître dans l'au-delà de l'unité sponsale. Jérusalem accomplie, glorieuse. Et il se nourrit donc de l'au-delà de l'unité sponsale qui en émane pour pouvoir atteindre cette mendication. Et puis il est suspendu, assumé avec ça pendant 19 ans. Et c'est ce qui fait son mariage spirituel. Et quand il est entièrement assumé, parfaitement, tachyoniquement pour tous les temps et pour tous les lieux, à ce moment-là, Dieu peut créer l'Immaculée Conception. Magnifique de comprendre ça, parce que ça, c'est trop fort, parce que c'est quelque chose d'équivalent, d'analogue, de supérieur au centuple, 5000 fois, qui s'opère lorsque il se réalise tachyoniquement. Mais ça, c'est horrible d'employer des mots pareils, tachyoniquement, de manière tachyonique, staminale, responsable. 13 ans plus tard, en fait, 14 ans plus tard, parce que c'est pas ça le secret de la croix glorieuse, ce 14 ans plus tard. Et c'est beau, enfin, c'est pas seulement beau, c'est délicieux de suivre le parcours qu'il fait, qu'il prend dans la nature humaine. Et la nature humaine opère cette croissance en sa transsubstantiation. Voilà, et quand l'Immaculée Conception est là, voilà, il en est prévenu. Disait Saint Jean de la Croix dans une flamme d'amour, vous verrez. On est prévenu, Maria spirituelle, tu le sais. Donc, on est prévenu, et donc il vit, il sait que. Bon. S'il y a quelque chose de très. C'est pas. C'est délicieux, il faut dire, les délices, je crois. Les délices. Le tourment des délices. De l'époux, la première personne à être saisie, lorsque l'extase de Saint-Esprit l'oblige à disparaître lui-même dans les délices du temps. Il le fait avec Marie, il le fait avec elle, parce qu'elle est toute petite, elle est encore dans l'impassibilité de sa mémoire à elle. Et donc c'est lui qui va la faire grandir avec ça. C'est beau ça, ça. Et la source de la croissance de l'Immaculée Conception jusqu'à la responsabilité, ces 14 ans extraordinaires qui permettront à la plénitude glorieuse et infinie et éternelle de s'établir dans un seul instant dans la nature métachionique de Jésus, sans qu'il y ait besoin de croissance. Voilà, et ça, c'est l'Eucharistie. Et bien, ils n'avaient rien compris. Et nous non plus.
Heureusement.
C'est une question de cas. Qu'est-ce que vous voulez souhaiter à une Maria? Si on la contemplait, vous voyez, ce que je vous dis là, si on la contemplait, si on le touche, de la contemplation, si on le voit, si on la s'amuse, si on a envie, à ce moment-là, on prend autorité sur le monde tachyonique tout entier. Les influences nanométriques d'Antéchrist. Donc la marque de la bête, ouais, est contrée uniquement par la marque intérieure eucharistique. C'est pas une marque. C'est pas une marque de cluster, vous voyez. Par lui. Il faut dire que, bon, c'est vrai, sans jeu de mots, hein, il est remarquable. Hein. Tout le temps, Joseph, il faut reprendre avec lui. Et lui, là, et... ça que l'Immaculée, quand elle regarde, elle est comme. Il n'y a pas de possibilité d'erreur en elle, puisqu'elle a plénitude de sagesse, d'esprit d'intelligence, d'esprit de science, d'esprit de sagesse, elle a la plénitude, donc elle regarde Saint-Joseph. Hein? Elle ne doit pas avoir beaucoup de mal à l'aimer, hein? C'est sûr. Petite fille, elle n'a pas peur, hein? C'est beau, ça. C'est beau. Et une transformation, Marie. Hein. Il y a une transformation. Hein. Il y a une intensification. Et cette croissance... En compréhension, en intensification, en actuation, dans l'intelligence de l'Immaculée Conception, ça vient de Saint-Joseph. Hein. Ça, c'est indéniable. Mais c'est vrai qu'il doit son absolution à l'Immaculée Conception, c'est-à-dire au mystère de compassion. C'est sûr qu'il y a une complémentarité, ça c'est sûr. Ah, ils ne sont pas pédés pour un sou. Hein.
Ah, ça c'est sûr.
Ça c'est sûr. Et donc c'est quelque chose de beau, quoi, de cette année 2015, de prendre cette consécration parfaite. La consécration, a-t-il pas pour l'année 2015, doit être une consécration parfaite. Après avoir dit Saint-Joseph, toi t'es dans le canon eucharistique. Maintenant, il faut que la consécration soit parfaite. On est enveloppé par Saint-Joseph pour que notre consécration sacerdotale, victimale, soit parfaite. Il est l'enveloppement du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Il est le champ morphogénétique principal du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Et l'enveloppant en même temps. Oui. Allez. Ne m'allumez plus jamais ce genre d'appareil.
Saint-Joseph, il a dit c'est stop.